voudrais vous raconter l'histoire de la maturité, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme qui a pris un coup de vieux mais qui ne l'a pas mal pris. De sentir ses forces s'amoindrir, il s'est ouvert davantage à la force du monde. C'est amusant d'ailleurs, il n'y avait pas trop prêté attention auparavant à cette force du monde. Il manquait de temps pour s'en émerveiller de la beauté du monde. Il avait trop à faire avec sa force propre, ses buts d'individu, ses projets, ses succès. Il avait tant à conquérir, tant à posséder, qu'il lui manquait le loisir de contempler. Bien sûr, il y a ce dos qui porte mal le poids des ans, ce relâchement des chairs comme un affront à sa vigueur d'antan. Bien sûr, il y a ces matins chagrins, plus chagrins qu'avant. Mais ce qui l'alourdit l'allège en même temps. Il découvre l'attention, à cette trouée de lumière dans un ciel soudain, à cet enfant qu'il n'a pas vu grandir parce qu'il travaillait trop. Mais il est encore temps. Que va-t-il faire de ses 20 ans? De ses 20 ans de vie supplémentaire. Né un demi-siècle plus tôt, il aurait l'âge de mourir. Mais les progrès de la science et de la médecine lui offrent 20 ans de vie en plus et il compte bien en profiter. Il n'y a pas d'âge pour philosopher, écrivait Épicure en un temps où l'on mourait à 35 ans. Que va-t-il faire du temps qui reste ? Apprendre et découvrir, interroger, regarder comme jamais, aimer, aimer la vie qui reste et l'aimer même si. Comprendre qu'il aurait pu n'être jamais et qu'à cette chance, à cette contingence, à ce miracle s'ajoute celui de l'avoir enfin compris. Comprendre qu'il y a quelque chose d'éternel dans le simple fait d'avoir été. Comprendre la chance qu'il a. Il mourra, il aurait pu n'être jamais. Il vieillit, c'est la grâce même d'une vie. Il va essayer d'être un bon vieux, de ne pas s'alléger de ses devoirs, mais au contraire de les multiplier, de penser à ceux d'après. Il va même essayer d'être un bon mort, qui ne laisse pas trop de cadavres dans le placard. Mais pour ça, il faut du temps. Et c'est ce temps que vieillir nous offre. Être un bon vieux et un bon mort, c'est cela pour lui, et jusqu'au bout, être un bon vivant. Aimer vraiment la vie, est-ce l'aimer encore même quand elle se retire ? Peut-on vraiment réussir quand on a follement aimé l'aube à adorer le crépuscule ? C'est pour répondre à cette question que j'ai le plaisir ce matin de recevoir Pascal Bruckner, essayiste et romancier, depuis 50 ans. Oui, 50 ans, 50 ans à nous éclairer, 50 ans à penser librement et joyeusement, pour finalement nous rejoindre maintenant sous le soleil de Platon, et nous accompagner sur le chemin de cette belle question, qu'est-ce que bien vieillir ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Charles Pépin.
Vous allez bien ?
Ça va pas mal, oui. Ouais. Vous savez comme on va à mon âge. Vous connaissez le proverbe, si après 50 ans, quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas mal quelque part, c'est que vous êtes mort. Eh bien, j'ai la preuve que je suis bien vivant.
Alors, est-ce que pour vous, pour bien vieillir, il faut se souvenir de ce que c'est qu'être un bon vivant ?
Oui, alors je pense qu'effectivement, on vieillit mieux quand on aime la vie. Et quand on a encore beaucoup d'envie, les deux termes riment, c'est une rime facile, mais en tout cas il faut la maintenir. Et quelqu'un qui n'aime pas la vie ne sera pas récompensé par elle, puisqu'au fond l'existence est un long dialogue avec la vie où elle nous confirme ou au contraire elle nous dément, elle nous accable de malheur si nous ne l'aimons pas. Elle peut éventuellement nous bénir si nous l'avons pris avec considération et plaisir. Mais évidemment, ça n'est pas une règle, parce qu'on peut aimer la vie et malgré tout endurer des souffrances épouvantables. Mais oui, si l'on vit bien, on se prépare une meilleure vieillesse.
Vous avez sorti il y a 2 ans un très beau livre, Une brève éternité, sous-titré Une philosophie de la longévité, où vous abordez justement cette question, voilà, comment bien vieillir, comment profiter de ces 20 ans ou ces 30 ans de vie supplémentaire que la science et la médecine nous offrent. Ce qu'on pourrait... vous reprochez, quand on vous connaît, quand on sait la note hédoniste de la plupart de vos travaux depuis toujours, c'est peut-être de vouloir être hédoniste même en pensant à la vieillesse et de ne pas vouloir accepter qu'il y a du tragique au fond, de ne rien vouloir finalement concéder au tragique de l'existence.
Alors si, je pense que mon livre est empreint de mélancolie, et donc je suis parfaitement conscient du tragique de la vie, d'abord parce qu'elle va s'arrêter et que nous tombons malades, mais ça n'est pas la note que je préfère mettre. J'ai des amis très proches pour qui chaque jour qui passe est un pas supplémentaire vers la catastrophe, qui envisagent avec effroi tous les maux qui pourraient les frapper, à commencer par les maladies neurodégénératives. Et je sais qu'ils existent, mais ça n'est pas ce que je préfère. Je préfère me projeter plutôt que d'énumérer sans fin la liste des calamités qui pourraient me frapper. Peut-être que elles me frapperont un jour, mais ça n'est pas mon optique est effectivement hédoniste. Depuis le départ, et je cherche dans chaque jour l'occasion de me réjouir, d'envisager de nouvelles choses, et non pas de me lamenter. Je ne suis pas un ami de la lamentation.
Vous avez dit se projeter. Alors c'est assez amusant comme terme, parce qu'on pourrait se dire voilà, bien vieillir, c'est au moins réussir à être présent, à contempler, à apprécier des choses, à avoir le temps, le loisir en fait de les contempler. Mais vous avez quand même dit se projeter, toujours aller de l'avant, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense, c'est un vieux problème de la philosophie que les stoïciens, les épicuriens avaient envisagé. C'est le carpe diem des latins. Bien sûr qu'il faut cueillir le jour, profiter de chaque instant, comme si nous devions mourir le soir même, mais en même temps, nous continuons à faire des projets, nous continuons à penser à l'avenir, et même un centenaire. Pensez à Edgar Morin, ouais. Dit demain, et a encore des ambitions littéraires, politiques, philosophiques. Donc, moi j'ai toujours préféré le projet au regret, le projet de voyage, le projet de livre, le projet de connaissance, parce que sinon on vit avec les yeux tournés vers l'arrière, et rien n'est plus triste qu'un homme ou une femme qui remâche leur passé au lieu d'envisager l'avenir, même si l'avenir doit être très court.
Oui, alors aujourd'hui, il y a une mode, en fait, de la pleine conscience, de la méditation de pleine présence, toutes ces méthodes, toutes ces pseudo-sagesses pour nous dire, voilà, rien n'existe que le présent. Il y a ce livre d'Eckhart Tolle, là, Le pouvoir du moment présent, qui est un incroyable best-seller. Il est plus lu que la Bible aujourd'hui. Et au fond, la question que ça pose, que vous venez de dire, c'est est-ce que pour être présent, il faut être présent? Ou est-ce que la plus belle manière d'être présent n'est pas de toujours se projeter, finalement?
Ah, c'est une question philosophique.
Pascal Bruckner, vous avez 4 heures.
Oui, difficile. Non, mais je pense qu'effectivement, les deux attitudes peuvent se concilier. On peut parfaitement être frappé d'émotions devant un paysage, un spectacle, en écoutant une musique ou en regardant un film. Mais en même temps, il faut toujours penser que l'instant sera suivi d'autres instants, que le jour qui passe connaîtra un crépuscule et il y aura un lendemain. Et donc, je crois que cette opposition est un peu fausse. Elle était, à l'époque des Romains, elle était assez vraie parce que la vie était brève et vous pouviez mourir d'une rage de dents, d'un rhume. Et Sénèque raconte qu'un général romain qui était gouverneur de la Syrie à l'époque de l'Empire avait pour coutume de se faire enterrer chaque soir après des libations et des débauches, comme il le dit, abondantes. En se préparant à la mort, il se réveillait le matin en pleine forme et donc il recommençait une vie comme cela. Mais s'endormir le soir en se disant qu'on va peut-être mourir pendant la nuit et remercier les dieux de vous avoir accordé cette journée, c'est quand même un très très bon, c'est un très bon moyen de connaître des insomnies durables, parce qu'évidemment, qui s'endormirait d'un bon sommeil s'il pensait qu'il allait disparaître dans quelques heures?
Je propose d'écouter un passage de votre livre, Une brève éternité, philosophie de la longévité, sorti chez Grasset il y a 2 ans. On va comprendre cette idée comme ça d'être dans un chemin et de pas être dans le pur présent non plus. Pascal Bruckner, donc je vous lis. Nous sommes précédés comme nous serons suivis. Simples passagers d'une vie qui ne nous fut pas donnée mais prêtée. Nous en avons l'usufruit, pas la propriété. Avancer en âge, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, s'alléger de ses devoirs, c'est au contraire les multiplier. Pour se prolonger, il faut commencer par se surcharger d'obligations nouvelles. La liberté n'est pas un relâchement, mais un surcroît de responsabilité. Elle ne déleste pas, elle alourdit. Les vieillards ont droit au respect et au repos, disait Charles Péguy en 1912. Peut-être à son époque, mais de nos jours, la vie n'est pas une maladie dont il faille se remettre. À tout âge, le salut est dans le travail, l'engagement, l'étude. Alors Pascal Bruckner, c'est très beau cette idée, vous allez encore une fois, c'est un peu votre, c'est quelque chose que vous aimez bien quand même, aller à contre-courant de l'idée de l'allègement. Voilà, peut-être que vieillir, c'est au contraire accepter la multiplicité, la multiplication de ses responsabilités.
Oui, je pense, et c'est une chose dont je me suis rendu compte vers la cinquantaine, Donc, au moment où effectivement je commençais à rentrer dans la période des seniors, comme on dit en latin et non pas en anglais, oui. Je préfère le mot latin, qui est quand même un peu plus noble. Et je me suis rendu compte que une des caractéristiques des gens à partir d'un certain âge, c'est le surmenage, c'est-à-dire qu'ils aiment se surcharger d'activités. Et je me demandais pourquoi les gens aimaient tellement s'encombrer de divers fardeaux familiaux ou professionnels. Je pense que c'est une sauvegarde contre le temps qui passe, parce que précisément, s'alléger de tous ces devoirs, de toutes ces contraintes, c'est rentrer dans le temps de la retraite. Et pour moi, le mot retraite, même si c'est une grande conquête sociale, c'est un terme militaire. On fait retraite quand on a perdu la bataille. Et au fond, les gens qui partent à la retraite ont déjà plus ou moins perdu la bataille contre le temps. Alors je n'ai rien personnellement contre la retraite, surtout si on a connu des métiers pénibles. Mais je pense qu'il faut réfléchir justement à ces 20 ans ou 30 années supplémentaires que nous avons gagnées depuis 1945, grâce à la médecine et à l'hygiène. Et comment allons-nous les remplir si nous sommes en quelque sorte renvoyés chez nous et que nous devenons de purs consommateurs?
Alors comment on fait? Quelle est la sagesse que vous proposez pour cet âge, même si je sais que finalement vous refusez l'idée d'une sagesse de la vieillesse?
Alors, il n'y a pas de sagesse. Et je pense qu'il y a des stratégies individuelles selon ses compétences, selon ses curiosités, selon ses passions. D'abord, moi, je tiens beaucoup au mot passion parce que on a décrit la passion comme étant une sorte d'enchaînement fatal à ses propres goûts. Je crois que c'est au contraire quelque chose qui nous enracine dans cette terre, qui nous rapporte aux autres, et que ne pas avoir de passion, c'est évidemment se condamner à s'éteindre tout doucement dans l'indifférence. Mieux vaut des passions fortes qui vous relie au monde et aux autres, plutôt qu'une simple curiosité qui finalement devient le passe-temps du dilettante. Et donc, sagesse de la vieillesse, je ne prétendrai pas en apporter une, mais je dis simplement que pour rester attaché à cette terre, il faut avoir non seulement des engagements, et pas forcément des engagements politiques, ça peut être des engagements intellectuels, philosophiques, artistiques,
bien sûr.
Mais il faut rester engagé, il faut rester utile.
C'est ce que j'ai lu dans votre extrait. À tout âge, le salut est dans le travail, l'engagement, l'étude. Dans ce que vous dites, ce qui est particulier, c'est qu'il y a de la douceur, il y a de la tendresse. C'est un livre qui fait du bien, d'ailleurs, qui fait du bien pas simplement aux gens qui ont passé 60, 70, mais à tout le monde. Je vous rappelle que les enfants qui naissent aujourd'hui, un sur deux sera centenaire. Donc c'est surtout les jeunes qui devraient vous lire. Mais en même temps, sous cette douceur, il y a quelque chose de dur. Parce qu'en fait, si on vous écoute, celui qui n'a pas de passion, celui qui ne sait pas travailler parce que il n'a pas pris le temps de découvrir un travail qui le développe et d'avoir cette manière comme ça de mettre la main à la pâte et de reprendre confiance, celui qui finalement n'a pas suffisamment aimé la vie, eh bien, il va le payer. Et quelque part, si on lit ce que vous écrivez, ça va être dur pour lui de bien vieillir.
Oui, mais la génération de nos parents l'a payé très très chèrement, puisque précisément c'est une génération qui vivait, qui est née donc bien avant la guerre et qui vivait encore sur les présupposés du début du XXe siècle. Moi, j'ai vu mon père désespéré par son départ à la retraite et petit à petit s'enfoncer dans une sorte d'alternance entre les maladies, oui, la mélancolie et la fureur, parce que c'était un homme plutôt agressif. Et
Attends, il faut que je précise pour les auditeurs quelque chose d'incroyable. Tout le monde ne le sait pas. Vous avez écrit un livre à ce sujet, un magnifique récit, non pas un roman, un bon fils, dans lequel on découvre, moi j'ai été complètement ahuri, que vous, que beaucoup ont pris pour un intellectuel juif en raison de ce nom, Bruckner, en fait, non seulement vous n'êtes pas juif, mais vous êtes le fils d'un Allemand et de surcroît d'un nazi.
Oui, enfin d'un sympathisant nazi.
Oui, d'un fort sympathisant.
D'un très fort sympathisant.
Il a quand même continué à être sympathisant nazi après la Seconde Guerre mondiale.
Jusqu'à son dernier souffle.
Et donc vous racontez dans ce livre qui est bouleversant que vous avez quand même essayé, malgré tout, avec un père comme ça, d'être un bon fils. C'est-à-dire de l'accompagner dans sa vieillesse, malgré tout.
Oui, bien sûr. Alors, lorsque ma mère est morte, je me suis retrouvé avec cet homme que je connaissais mal, avec qui j'avais plus de contact depuis des années. Et évidemment, comme je suis fils unique, j'ai été contraint de le soigner, de l'accompagner dans...
Il avait en plus été violent, odieux, égoïste, en plus d'avoir été sympathique.
Oui, qui était violent, surtout avec ma mère, avec moi. Comme j'étais un homme, j'ai été épargné. Je pense que si j'avais été une fille, ça aurait été terrible. Mais bon, étant un homme, il respectait au moins le sexe mâle en moi. Mais effectivement, j'étais obligé de l'accompagner. Et ça, ça a été ma première expérience de la vieillesse. C'est-à-dire que la vieillesse, c'est d'abord la maladie. La maladie, c'est le salaire de la longévité. Plus l'on vit vieux, plus l'on court un certain nombre de risques de tomber malade. Et donc, je suis allé le voir à l'hôpital pendant 10 ans.
Et c'est ce que raconte ce récit.
Voilà, avec des périodes de rémission. Mais je dois dire qu'il a été très courageux face à l'adversité. Et ça, ça m'en a imposé. Et puis, on s'attache...
Malgré tout. On s'attache à son père.
On s'attache à son père. C'est mon père. Il m'a payé de bonnes études, il a travaillé pour moi, et même aujourd'hui, malgré ses idées qui me font horreur et sa brutalité avec ma mère, je ne rêve que d'une chose, c'est de réconcilier mes parents. Alors c'est un peu tard, sauf s'il y a un paradis dans l'au-delà, ce que nous racontent les chrétiens, les juifs et les musulmans, je n'en suis pas sûr, mais aujourd'hui, c'est donc le souvenir qui me reste de lui, mais jusqu'au, c'est horrible, ce que je vais dire est horrible, mais c'est la haine qu'il a porté jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais perdu la tête. Jusqu'à son dernier souffle, il a défendu ses idées. Et notre dernière conversation a eu lieu autour de Thomas Mann. J'étais aux États-Unis et lui est dans une clinique autour de Paris. Et il m'a dit, Thomas Mann, donc c'est ce grand écrivain allemand qui a été banni par les nazis, était un traître. Il a trahi la patrie allemande. Et je me suis dit, c'est sans recours. C'est foutu.
Le récit est complètement fou. C'est la haine qui a permis à votre père de tenir dans la vieillesse. Et vous, finalement, vous militez pour l'amour, pour que l'amour de la vie, l'amour de la beauté du monde, l'amour de la tâche, l'amour du travail, nous permette de tenir. C'est un peu mieux que la haine.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivi par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée, sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 de la foule, le flux, flux de la foule, le flux, flux de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites.
Le flou de la foule, le flou, flou de la foule, le flou, flou de la foule. porte de l'âme. On avait besoin de fenêtres ouvertes sur un panorama. Il se profilera lentement sur le crête les sommets. Un soleil bien jaune étincelant qui nous aiderait à tenir verticalement. On marchait de travers en cherchant l'air pur à la lumière. Entre deux souffles, nos sens à l'affût, on a trouvé l'issue. On s'est éloigné du flux.
C'était Françoise Breut, Dérive urbaine dans la ville cannibale.
Sous le soleil de Platon.
Désolé Jacques.
De quoi ?
De tout ça, tout ce qui a changé, le temps qui a passé.
Mais c'est ta faute, le temps qui passe, les choses qui changent.
Non.
Bah t'excuse pas.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Pascal Bruckner dans Sous le soleil de Platon pour essayer de savoir ce que c'est que bien vieillir. Pascal Bruckner qui a sorti un très joli essai, Une brève éternité, philosophie de la longévité, il y a 2 ans chez Grasset. Alors avant d'écouter Françoise Breut, vous nous racontiez l'histoire de votre père que vous aviez vu vieillir, tenu par la haine. Et je sais par ailleurs que vous avez grandi en regardant le couple de vos parents comme un terrible modèle, un père violent qui maltraitait votre mère, et que vous avez été rattrapé par un phénomène de répétition familiale, et à un moment de votre vie, vous avez eu des défauts qui ressemblaient un peu à ceux de votre père, dans votre couple. Vous avez raconté tout ça en le déplaçant dans une fiction, un roman très fort, Lune de Fiel, et puis, heureusement, le temps vous a offert la chance de progresser, quoi, de presque de vous soigner, de sortir de cette répétition. Est-ce que c'est pas ça aussi, vieillir, finalement ? En fait, juste avoir la chance de progresser.
Oui, je pense qu'il faut accorder de l'importance à l'idée d'amélioration. C'est vrai que dans la jeunesse, même si l'on est révolté contre ses parents, ou qu'on se jure de ne jamais mener la même vie qu'eux, on finit par leur ressembler. C'est ce qu'il y a de pire. Exactement comme une révolution reproduit les traits du régime qu'elle vient de renverser, un fils ou une fille révoltée deviennent la mère ou le père qu'il détestait. Et oui, j'ai eu ça dans mes premières expériences de couple. Et puis je m'en suis rendu compte très vite, grâce aussi aux réflexions de mes amis, oui, qui m'ont dit ce que tu fais est indigne. Et puis j'ai écrit ça dans Lune de Fiel et ça a été comme un exorcisme. Ça a été une manière.
Oui, la littérature vous a sauvé. Enfin,
oui, la littérature. Oui, 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 oui. Ça m'a été une manière de me mettre à distance de ces mauvais penchants. Alors ça revient parfois à la manière d'un comme un vieux réflexe. Et là, aujourd'hui encore. Ma compagne, quand je m'énerve, me dit « fais pas ton vieux ». Alors évidemment, ça me glace immédiatement et ça me calme. Oui, je pense qu'on peut se transformer pour le mieux en vieillissant. Donc le temps n'est pas qu'un facteur de dégradation, contrairement à ce qu'on dit. C'est un facteur c'est un facteur d'amélioration, c'est un facteur de réflexion sur soi. Et on peut accoucher d'un autre homme au fur et à mesure des années qui passent, qui gardera évidemment la même histoire, mais cette histoire, il l'aura totalement métamorphosée en quelque chose de nouveau. Il s'alléger de ce passé néfaste pour s'ouvrir à un avenir un peu plus heureux, c'est aussi le bénéfice de vieillir.
Bien sûr. Vous présentez la vieillesse comme un combat entre, ce sont vos mots, vos jolis mots, entre la ferveur et la fatigue, entre la grâce du renouveau et la disgrâce du renoncement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la balance penche du bon côté ?
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça n'est pas qu'une question de médecine. Je connais des gens qui prennent des vitamines tous les matins, des médicaments, et qui malgré tout restent ronchons ou aigris. Je pense que c'est une certaine attitude de disponibilité vis-à-vis de l'existence. Moi, je remarque que je me lève chaque matin avec joie. Je suis toujours heureux de sortir du lit, même quand j'ai une insomnie, ce qui évidemment arrive de plus en plus souvent. Et je suis toujours heureux d'entamer une nouvelle journée en me disant, eh bien, même s'il pleut, même s'il n'y a rien d'exaltant, j'aurai peut-être quand même une surprise. Et puis ça, la simple répétition des plaisirs quotidiens est pour moi une source de joie. Donc, ce que je vais dire est très banal, mais il y a quand même une certaine positivité face au jour qui vient, qui me paraît être la condition même de la d'une vieillesse heureuse. Alors, je ne suis pas dépressif de tempérament. J'ai beaucoup d'amis qui souffrent de dépression. Je ne suis pas dépressif, je suis angoissé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, peut-être qu'un psy pourrait me reprendre, mais en tout cas, je n'ai jamais...
Non, j'ai même l'impression... C'est moi qui vais jouer au psy, puisqu'il y en a pas dans le studio, que l'angoisse est un remède à la dépression, d'une certaine manière.
Sans doute, oui, l'angoisse. Donc l'anxiété de ne pas réussir, l'anxiété de passer à côté de quelque chose, fait que je n'ai jamais connu ces moments d'effondrement intérieur que connaissent beaucoup de gens. Évidemment, je suis parfois, comme on dit, déprimé, mais ça n'a rien à voir avec la dépression, c'est juste un petit coup de mou. Mais pour moi, la force, c'est vraiment ce qui va me porter vers l'avenir, même si c'est un avenir immédiat, même si c'est un avenir à hauteur de 1 ou 2 ans. Mais en tout cas, c'est ce qui, chaque matin, me tire du lit et c'est quand même la joie de saluer l'aurore nouvelle.
Alors justement, d'abord, je corrige une chose que j'ai dite, qu'elle me semble fausse. L'angoisse n'est pas un remède à la dépression, c'est plutôt un contrepoison, quelque chose qui va contrebalancer. Et le matin, comme ça, quand vous vous levez et qu'il y a ce secret au fond, cette espèce d'approbation de la vie, vous pensez que c'est plutôt dû à quoi ? Est-ce que c'est plutôt dû au corps qui en fait est là, le corps qui répond présent, qui est solide, malgré la diminution des forces vitales ? Est-ce que c'est plutôt lié à une forme de fidélité à votre désir, à ce qui compte pour vous ? Qui, dans ce cas-là, c'est plus que le corps, c'est plus profond, vous êtes sur votre axe et c'est peut-être pour ça. Ou alors, est-ce que c'est lié aux autres, finalement? Est-ce que c'est pas aussi, est-ce que bien vieillir, c'est pas savoir prendre soin des liens et donc des autres?
Oui, alors là, évidemment, je vais vous répondre les trois, mon capitaine. Mais
vous pouvez hiérarchiser.
Oui, avec l'âge, c'est vrai que le corps devient de plus en plus comme une vieille berline qui tombe en panne tous les 100 kilomètres. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que finalement, on a mal aux articulations, on a mal aux reins, on a mal ici ou là. Et donc, on va voir le médecin qui vous répare. On a vraiment l'impression, après 60 ans, d'entrer dans une sorte d'atelier de réparation. C'est les chirurgiens, c'est les hôpitaux, qui vous remet en état, puis vous repartez tout fringant, tout pimpant, et hop, ça retombe. Mais ça n'est pas grave, parce qu'on sait, sauf maladie très grave, que ces choses-là se soignent. Et ça, c'est le miracle de la science. Et moi, c'est pourquoi je suis profondément progressiste. Moi, je crois au progrès de la science, au progrès de la médecine, au progrès de la société. Et je n'ai pas une seule fois, je ne me joindrai au cœur des pleureuses et des nostalgiques qui hurlent à la décadence. Personnellement, je n'en vois aucune. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, c'est aussi rester fidèle à son désir. Vous l'avez dit.
En l'occurrence, pour vous, c'est quelque chose que j'adore chez vous, c'est cette espèce de façon d'alterner quand même depuis tellement, je crois, 50 ans.
Vous n'avez pas prêté beaucoup d'années. Non, j'ai commencé à publier à 25 ans. Donc ça fait pas tout à fait 50, ça fait 47 ou 8.
Alors, bon, voilà, on y est presque. D'alterner essais et romans, peut-être qu'il y a là quelque chose de votre désir, continuer à travailler en fait, tout simplement.
Oui, c'est ça. Alors pour moi, alors évidemment, je ne veux pas généraliser mon cas et je comprends qu'un homme ou une femme qui ont eu des travaux pénibles aient envie d'arrêter. Mais pour moi, et dans tous les métiers intellectuels, et je crois que c'est valable aussi pour tout le monde, la connaissance ne requiert pas d'aptitudes particulières. On peut parfaitement apprendre une langue nouvelle, un instrument de musique, découvrir des pays à tout âge. Et donc, c'est un bon moyen aussi de ne pas se sentir complètement inutile et vain quand on a passé une certaine limite. Mais avoir un projet d'écriture, ou avoir un projet de représentation, ou travailler avec d'autres gens, c'est pour moi essentiel. Si le matin, quand je me lève, je n'ai pas cette idée que je vais en quelque sorte avancer dans une tâche précise, je me dis, mais à quoi bon ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et donc, ce désir, il me porte depuis que je suis tout petit. Et c'est aussi, évidemment, l'envie d'être avec les autres et de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir les toucher, les embrasser. Je parle des autres qui sont très proches, évidemment. Ouais, et les voir, donc, C'est une manière de d'être porté par tous ces appétits. Et il n'y a pas de vieillesse réussie si on n'a pas des appétits multiples.
Et puisqu'on parle de liens, puisqu'on parle de rencontres, puisqu'on parle d'appétit, je vous propose d'écouter Laure Adler, que vous connaissez bien, et qui parle très bien de ce sujet.
Vous savez que c'est un tabou, la sexualité dans la vieillesse. C'est un tabou, y compris dans les EHPAD. Dans les EHPAD seulement, et dans quelques EHPAD, on demande maintenant au personnel de frapper à la porte des chambres parce qu'on considère que les vieux n'ont pas de vie, n'ont pas d'intimité, n'ont pas de possibilité de vivre leur propre vie sans être sous le regard de tous les autres. Je propose le slow sex, pas de fermer la boutique.
Le slow sex, c'est quoi en un mot?
Bah, le slow sex, c'est-à-dire que c'est pas forcément les modèles sociétaux qui nous sont imposés de la virilité conquérante pour pouvoir profiter du plaisir qui nous est encore donné pendant de très nombreuses années, je l'espère.
J'imagine que vous êtes d'accord, Pascal Bruckner.
Oui, je ne peux que souscrire à ces sages paroles de Laure Adler, bien sûr. Ça peut être le slow sex ou le fast sex, ça je n'ai jamais compris la différence, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le désir ne meurt pas après 50 ou 60 ans. Et ça c'est la grande découverte que j'ai faite personnellement, mais
crois que vous n'y croyez pas quand vous étiez plus jeune.
Non, je n'y croyais pas non plus, mais je voyais quand même cette date avec une certaine appréhension. Je me disais, comment ça se passe une fois qu'on a traversé la frontière? Eh ben, ça se passe comme avant. Simplement, et là, Laure Adler a raison, le regard des autres ne tolère pas la sexualité des personnes âgées. Elle est indécente, elle est irritante. Pourquoi ? Parce que la vieillesse est une utopie aussi pour un certain nombre de gens. C'est l'idée selon laquelle, quand on aura passé 50 ou 60 ans, on va enfin être débarrassé du joug du désir. Or, le désir, c'est un plaisir, mais c'est aussi pour beaucoup de personnes un fardeau, une souffrance, une tristesse. Et les gens se disent que quand ils auront enfin atteint le statut de grands-parents, ils n'auront que bienveillance, amour et douceur à offrir à leurs petits-enfants. Et ils seront débarrassés des convoitises de la chair. Eh bien, c'est faux. Les convoitises de la chair, non seulement continuent à nous travailler, mais je dirais que c'est même cela qui nous tient debout. Eros est le meilleur remède contre Thanatos. Si on abandonne toute idée de sexualité, si on considère qu'effectivement ce domaine-là est devenu tabou et qu'on peut s'en passer, alors on rejoint l'état des bienheureux des moines ou des stylites ou des ermites. Mais si on a pratiqué l'amour toute sa vie, cet état-là sera ressenti comme une terrible privation. Et je crois que la privation ne mène à rien d'autre qu'à l'aigreur et au ressentiment. Donc effectivement, les vieux ont des désirs. Et Dieu merci, si j'ose dire, ouais. Il y a dans une population donnée des hommes ou des femmes qui ne détestent pas les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle les gérontophiles. Il y a eu de multiples films là-dessus, à commencer par Harold et Maude dans les années 60. Il y a eu les lauréats bien ouais. connus. Qu'est-ce que c'est que ces gérontophiles? Pour moi, ce sont des goûteurs de crépuscule. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont sensibles à la noblesse des ruines et aux souvenirs de la splendeur passée. Et effectivement, beaucoup de gens ne détestent pas forcément les gens plus âgés qu'eux. Meilleur exemple que je puisse donner, c'est notre président de la République qui vit avec une femme de 25 ans de plus que lui, qui est très amoureux.
Un modèle pour nous tous.
Et je pense que oui, c'est un modèle pour nous tous, parce qu'effectivement, il a brisé un tabou. Vous savez très bien que autant la société accepte éventuellement qu'un homme âgé sorte avec une femme plus jeune, autant l'inverse est encore très mal vu et fait l'objet de sarcasmes divers. Donc je pense que c'est important, effectivement, que le couple présidentiel donne cet exemple. Moi, chez Emmanuel Macron, ce que je préfère, c'est Brigitte.
C'est joli. C'est joli aussi votre expression « goûteur de crépuscule ». Est-ce que vous pensez qu'on goûte mieux le crépuscule quand on a beaucoup aimé l'aube, ou alors qu'au contraire, parfois on se rattrape et on apprend à goûter le crépuscule parce qu'on n'a pas suffisamment apprécié l'aube?
Oui, je pense qu'on a... Si on a... Évidemment, cela dépend beaucoup, mais beaucoup de gens vous disent que les personnes mûres ont à la fois une certaine sagesse et une expérience qui manquent à la jeunesse. Et puis elles ont une certaine...
Une connaissance de soi aussi, de son désir,
de son corps. D'abord, elles connaissent leurs limites, elles connaissent leurs capacités. Et puis elles ont des connaissances qui manquent souvent à la jeunesse. On est bête quand on est jeune. Enfin, moi, je me souviens de ma propre jeunesse. On est souvent bête, on tranche de tout. La jeunesse a le goût de l'absolu, ce qui est d'ailleurs en fait l'âge du recrutement par excellence de tous les totalitarismes. Alors que vieillir, c'est acquérir le goût de la nuance et tout d'un coup pouvoir rentrer dans des analyses un peu plus fines.
Eh bien, je propose à tous les goûteurs de crépuscule et même aux autres d'écouter justement The Kinks, Sunny Afternoon.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Pascal Bruckner et nous demandons ce que c'est que bien vieillir. Alors Pascal Bruckner, on vous connaît aussi pour des prises de position. Vous êtes un esprit libre, vous n'hésitez pas à déplaire, hein, et notamment à certains auditeurs de France Inter sur certains sujets. Est-ce que vous croyez pas que ça, on le fait plus facilement avec l'âge ? Et qu'au fond, vieillir, c'est découvrir, peut-être jouir d'une indifférence au qu'en dira-t-on ?
Alors, oui, indifférence au qu'en dira-t-on, pas vraiment, parce qu'on est quand même toujours blessé par les attaques. Et moi, j'ai été contesté très jeune, puisque oui. J'ai attaqué un certain nombre de bastions de la gauche d'alors, et ça m'a été beaucoup reproché. Mais en vieillissant, on peut récapituler ces combats et se dire qu'on a eu raison il y a 20, 30 ou 40 ans et qu'on finira par l'emporter aujourd'hui encore.
Même vous pensez si... à quoi alors?
Moi, je pense par exemple au Sanglot de l'homme blanc, qui est paru en 83, qui m'a valu à la fois les éloges des uns et le crachat des autres, si j'ose dire. Mais je vois qu'aujourd'hui, cette thèse est reprise, et donc je suis assez content de l'avoir fait. Donc il faut rester fidèle à soi-même, y compris dans la contestation des idées reçues.
Vous voulez dire que ça n'est pas plus facile aujourd'hui d'être détaché qu'hier?
Non. Alors justement, puisque on parle de sagesse, moi je n'ai pas cette sagesse du détachement. J'aimerais l'avoir, mais au fond chaque pic me heurte autant qu'autrefois. Mais c'est pas grave. Hein, c'est le principe même de l'engagement politique ou de la réflexion théorique. Il faut savoir vivre avec des ennemis. Je dirais même que ce sont les ennemis qui vous permettent de bien vieillir, parce que tant qu'ils sont là, ils se rappellent à votre souvenir, ils vous citent avec dédain. Et donc, ce qu'il y a de pire, effectivement, pour un écrivain, et vous le savez vous aussi, c'est l'indifférence, c'est ne susciter finalement qu'un sourire poli, et puis on tourne à la page. Donc,
Ça me fait un peu penser à quand Sartre dit que c'est l'antisémite qui fait exister le juif, quand c'est la critique qui fait exister le critiqué. Mais est-ce que parfois, est-ce qu'on pourrait pas penser quand même, enfin j'insiste un peu, hein, que vieillir, c'est quand même un peu se libérer de ça malgré tout. Vous dites un peu le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas une dialectique, finalement un double mouvement, c'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir exister en étant regardé, en étant attaqué, en étant admiré, en étant critiqué. Mais est-ce qu'on pourrait pas quand même rêver d'un moment où ça s'arrête, quoi? Où la contemplation du monde, la présence à soi suffit, où au fond on n'a plus besoin d'être dans la relation, quoi, d'être tenu comme ça par le regard de l'autre.
Oui, alors moi j'ai ça quand je fais de la montagne. J'adore la montagne et donc quand effectivement je pars sur les sommets ou sur les hautes vallées, alors là je suis totalement sorti du monde extérieur et les attaques ou même les louanges me sont indifférentes. Mais dans la vie de la cité, on est quand même sensible à la vie des autres. Mais c'est bien d'être attaqué parce que ça vous force à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ce travail de conviction, il peut prendre des années. Moi, rien ne me ravit plus que de rencontrer des gens qui me disent « je vous détestais il y a quelque temps et maintenant je suis presque d'accord avec vous, je me dis que j'ai fait un progrès ».
Et dans l'autre sens.
Et dans l'autre sens aussi. Bien sûr, je me suis trompé comme tout le monde.
Parce que d'ailleurs, vieillir, on disait tout à l'heure, c'est trouver son désir, c'est rejoindre son désir, c'est être fidèle à soi. Mais est-ce que c'est pas aussi parfois changer d'avis?
Bien sûr, s'engager, c'est toujours courir le risque de s'égarer, mais on s'égarerait encore plus si on ne s'engageait jamais et qu'on laisse au fond l'égarement des autres triompher à la place de vous. Alors évidemment, on apprend de ces échecs et de ces défaites, mais l'essentiel, c'est de ne pas se tromper sur le fond, c'est-à-dire sur l'essence même de votre réflexion et de votre philosophie. Et donc c'est ça l'essentiel. On s'est trompé sur les détails. On a eu raison sur l'essentiel.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Excellent Brassens, c'est sa sagesse éternelle. Pascal Bruckner, quel regard portez-vous sur le jeune homme de 20 ans que vous avez été?
D'abord, pour commenter la chanson de Brassens, c'est vrai que la bêtise n'attend pas le nombre des années. Et contrairement à lui, je pense qu'en vieillissant, on peut s'améliorer. On peut tout d'un coup s'ouvrir à la complexité du monde, car c'est ça la bêtise de la jeunesse. Alors le jeune homme que j'ai été, je crois qu'il me serait insupportable aujourd'hui. Alors évidemment, il avait des pouvoirs et des possibilités que je n'ai plus, donc ça je l'envie. Pour le reste, quand je relis certains de mes textes ou qu'on me rappelle certaines attitudes, j'ai honte. J'ai honte, j'ai du remords, j'ai des regrets. J'ai été père très tôt, je ne pense pas avoir été un père exemplaire pour mon fils. Beaucoup moins que je n'ai été plus tard avec ma fille. Mais voilà, ça fait partie de cet âge où on est fougueux, on est emporté par ses passions, on se met en colère facilement, on dit des bêtises plus grosses que soi, et en même temps, je retrouve quand même cette alacrité et ce goût de vivre qui ne m'a jamais quitté. C'est ça, l'envie de partir, l'envie de, ouais, de m'éparpiller entre plusieurs corps, le désir constant. Si on ne désire pas, on est un zombie dès l'âge de 20 ans. Si on encadre sa vie si on met sa vie dans des cadres très jeunes, si on désire se marier puis ensuite avoir une belle profession, je crains qu'on ne sape très tôt les bases d'une vie intense. Donc j'ai été moi dans le mythe de l'intensité,
oui, bien sûr,
au moins jusqu'à 60 ans, et ça ne me passe que parce que je ne peux plus l'être.
La sagesse, quand même, elle arrive là.
C'est le lien aussi du corps qui vous dit, ça suffit.
Et puis, si tout était intense tout le temps, il n'y aurait plus d'intensité.
Voilà, si tout était intense.
C'était dur à dire, mais
l'intensité deviendrait la banalité même.
Mais pour préparer l'émission, je suis tombé sur une de vos premières télévisions avec Alain Finkielkraut sur le sujet Au coin de la rue, l'aventure. Donc, c'est justement cette intensité que vous évoquez. Alors, on vit une époque particulière parce qu'on peut, voir ça. Avant, on ne pouvait pas avoir des images de soi comme ça. C'est très troublant de voir ça. On vous reconnaît déjà. Il y a déjà ce consentement, ce oui à la vie. Alain Finkielkraut, il est très très beau. Il ressemble à Hervé Guibert. C'est étonnant. J'avais pas vu cette ressemblance à l'époque. Enfin, à l'époque, j'étais juste pas né. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça? J'imagine que vous êtes retombé dessus. C'est une archivina. Qu'est-ce que ça vous fait en vrai de voir ça?
Vous venez de le dire. Ça veut dire que je suis moi-même devenu une archive, ma propre archive. Alors à la fois ça m'amuse parce que évidemment la coiffure, le visage, c'est fini, tout ça est passé. Ça m'agace parce que je n'aime pas ce que je dis à ce moment-là, que je trouve que je parle mal. Ça me fait penser au vers de Racine, des ans l'irréparable outrage. C'est vraiment les photos d'enfants, puis les photos de soi aujourd'hui. C'est là qu'on mesure le temps qui est passé. Mais en même temps, je reste fidèle à ce jeune homme qui défendait des idées.
Oui, il vous ressemble pas mal, hein.
Oui, qui me ressemble et que j'essaie de retrouver moi-même quand je suis devant la glace. Vous savez, Keith Richards disait « La vieillesse me passionne, sauf que je me rase le matin devant ma glace et que je vois que je suis devenu vieux. »
C'est un bon philosophe, j'aime bien. J'aime bien son livre « Life », son autobiographie.
Oui, je pourrais dire la même chose. Et donc, quand je me revois, je suis... je suis pris d'un pincement au cœur. J'ai dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» D'ailleurs, ça m'est arrivé, si vous me permettez, cette brève anecdote. Je suis allé voir des amis à la montagne il y a quelques années, et la femme m'ouvre, elle me regarde, elle me dit « Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ben, je dis « Je sais pas, rien. » Elle me dit mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pendant tout le repas, elle a dit ça.
Sympa.
Alors, évidemment, je l'ai pris avec humour. J'étais avec ma fille et ma compagne, mais j'ai compris que elle projetait sur moi sa propre dégradation physique, et je ne l'ai pas pris mal. Mais enfin, j'ai quand même compris le message. C'est vrai que j'avais changé. Voilà.
Je vais lire la fin de votre livre, parce qu'on retrouve ce oui à la vie, dont on voit qu'il est tout à fait compatible avec la manière de se projeter, et c'est ça votre philosophie. Nous restons, donc c'est la fin de Une brève éternité, philosophie de la longévité. Nous restons des êtres en transit, perdus sur un sentier obscur et qui tentent de s'éclairer à la lumière de la raison et de la beauté. On ne reste libre qu'en s'immergeant parmi les autres, frères, amis, camarades, parents, toujours curieux, jamais résignés. Nous perdrons notre enveloppe corporelle, disparaîtrons dans le flux, redeviendrons cendres. Et alors ? Nous n'avons jamais été que de passage, fragments d'un tout qui nous dépasse. Réjouissons-nous d'avoir duré et de pouvoir encore bénéficier des bontés du monde. Au soir de notre vie, si heureuse ou douloureuse fut-elle, nous mesurons la chance qui nous a été donnée. Nous avons été simultanément blessés et comblés. Beaucoup de nos prières n'ont pas été entendues, d'autres, que nous n'avons pas formulées, ont été exaucées au centuple. Nous avons traversé des cauchemars et reçu des trésors. L'existence a pu être cruelle autant que capiteuse et opulente. Le seul mot que nous devrions prononcer chaque matin, en reconnaissance du cadeau qui nous a été fait, c'est « merci ». rien ne nous était dû. Merci pour cette grâce insensée. C'est là qu'on voit que l'épicurien, l'hédoniste, est aussi un stoïcien.
Oui, bah il est impensable de vieillir sans revenir aux stoïciens. Vous savez que les chrétiens n'aimaient pas les stoïciens parce que les stoïciens estimaient que chacun peut être l'artisan de son propre salut. C'est notamment la critique que Pascal fait à Sénèque et Épictète. Mais je pense que sans stoïcisme, on ne peut pas endurer les douleurs de la vie ou les travers ou les deuils. Et donc, effectivement, au soir de ma vie, puisque quand même c'est un soir, même s'il peut durer encore ouais. peut-être 30 ans, quand je vois Pierre Soulages, Louise Bourgois, la sculpture, ou Edgar Morin, je me dis, ces grands aînés ouvrent la voie. Mais quand même, je dirais aujourd'hui, il faut rester à la hauteur de ce qui nous arrive, même si ce qui nous arrive peut être extrêmement douloureux. Donc si la maladie me frappe, je l'accepterai avec résignation et stoïcisme. Mais je peux dire aussi...
Résignation ou consentement plutôt.
Contentement, je ne sais
consentement,
pas. Consentement. Pas contentement, non.
Non,
car je n'aime pas être malade, comme tout le monde. Mais je dirais aussi que la vie m'a comblé. Oui, j'ai eu une vie très heureuse et j'espère pouvoir la prolonger le plus tard possible, tout en sachant que le précipice est beaucoup plus proche de moi qu'il ne l'était quand j'avais 30 ou 40 ans. Mais ça fait partie des enjeux de la vie. Vieillir, c'est courir le risque de tomber beaucoup plus que quand on était jeune. Mais encore une fois, j'ai été comblé par cette existence de tous les bienfaits. J'ai reçu toutes les bontés du monde et je remercie, je ne sais pas qui, la Providence, Dieu.
Ce sera le mot de la fin. Merci. Je rappelle les dernières lignes de votre livre. Rien ne nous était dû. Merci pour cette grâce insensée. Je vais résumer votre philosophie de la vie. Enfin, essayez pour nos auditeurs. C'est un petit rite dans cette émission. Évidemment, vous êtes un hédoniste depuis toujours. C'est votre constante. Mais on découvre dans cette philosophie de la longévité que l'hédoniste laisse la place à un stoïcien. Parce que vieillir, c'est consentir. Alors, il y a toute une dialectique subtile entre ce qu'il y a à accepter et ce qu'il faut renoncer. Peut-être il y a la même vigueur dans l'acceptation et dans le refus. Peut-être que c'est le même oui à la vie, finalement, qui vous tient en vie, qui fait de vous un créateur. Et je vous rappelle le conseil que vous donnez à toutes celles et ceux qui veulent bien vieillir, continuez à étudier, à travailler, mettez la main à la tâche et surtout, merci Pascal Bruckner, n'oubliez pas de contempler.
Merci Charles Pépin.